Strasbourg pilote, arts et lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Monsieur Franck Laloux, bonjour.
Bonjour à vous.
Je vous remercie d'avoir accepté de nous présenter votre art. Vous êtes un calligraphe de réputation internationale. Vous comptez une centaine d'expositions en France, Japon, USA, Maroc, Angleterre, Canada, Israël. Vous êtes l'auteur d'une quarantaine de livres et vous êtes la référence, ça je l'ai lu dans plusieurs communiqués, la référence internationale de la calligraphie hébraïque. Alors il y a les lettres hébraïques mais aussi il y a les autres lettres. Alors ma question c'est comment en êtes-vous venu à la calligraphie puisque c'est à un moment donné votre destin s'est ancré autour des lettres hébraïques. Il y a eu des rencontres majestueuses et mythiques, il y a eu Albert Vauda, il y a eu Monsieur Chouraki, il y a eu Marc-Alain Wachnin. Tous ces jalons font que vous êtes une personnalité.
Oui, écoutez, souvent on me pose la question d'où m'est venu cette vocation, parce que c'est une véritable vocation de la calligraphie et de l'écriture.
Oui.
Et c'est une question que je me pose moi-même, parce que je ne le sais pas. Puisque depuis la petite enfance, comme je suis gaucher, j'ai toujours eu un rapport particulier avec l'écriture, et qui était conflictuel au début, parce que gaucher en écrivant en lettres latines, ça n'a jamais été simple pour nous les gauchers. Mais aussi loin que je remonte dans ma propre histoire, je me vois en train de calligraphier, de faire les plus belles lettres possibles avec ce que nous avions à l'époque entre les mains, les écoliers de ma génération, des plumes qu'il fallait tremper dans l'encrier et sagement écrire. Donc ça, la calligraphie est venue à moi. Et de même, l'écriture de texte, cette fois-ci, elle est venue en même temps. Et c'est-à-dire que je ne sais pas quand est-ce que j'ai décidé d'écrire ou d'être écrivain. Tout ça est venu dans la toute petite enfance, dès que j'ai commencé à écrire et à lire à l'école primaire de Marmande, dans le Lot-et-Garonne où je suis né.
Alors, les lettres que vous tracez sont magnifiques, soyeuses, voluptueuses. Il y a des vidéos sur le net où on peut suivre votre main inventant, créant ces rubans qui se frisent, et la lettre paraît comme en trois dimensions. Les lettres juives et aussi les lettres latines, mais surtout les lettres hébraïques, ces 22 lettres surdouées qui ont dit que la création du monde a été faite avec ces 22 lettres. Vous les écrivez, mais aussi vous réfléchissez par rapport à leur forme, à leur métaphysique. Ce sont des lettres qui ont aussi une valeur numérique. Alors, pour les juifs, les lettres ne sont pas seulement des outils graphiques pour transcrire une langue, ce sont 22 signes qui sont autant d'entités, de symboles, de personnalités complexes. Dans la tradition juive, les lettres créent le monde et l'alphabet est l'axe autour duquel s'articulent métaphysique, cosmogonie, philosophie ou anthropologie. Vous, Franck Laloux, calligraphe, vous retracez ici l'histoire dans vos livres, dans vos écrits, dans vos conférences. Vous retracez l'histoire de l'évolution de cet alphabet et vous consacrez aussi à chacune des lettres tout votre temps, tout votre art. Par exemple, vous dites que l'alphabet hébraïque commence par la puissance tutélaire du taureau. Alors, est-ce que vous voulez revenir sur ce fait de ces 22 signes graphiques hébraïques qui sont mathématiques, qui sont métaphysiques, qui reflètent une réalité matérielle autant qu'une réalité spirituelle? Alors, ces 22 lettres hébraïques.
Oui, mais écoutez, les lettres hébraïques, d'abord, elles ont une histoire. Et c'est ce qui m'avait laissé émerveiller quand, vers l'âge de 10 ans, dans l'encyclopédie familiale, je découvre à l'entrée écriture, je découvre le tableau de l'histoire de l'alphabet. Et pour moi, enfant, l'alphabet était comme une sorte de divinité qui n'avait ni histoire, ni début, ni fin. Et là, je découvre, dans cette enfance-là, je découvre que les lettres ont une histoire, une archéologie, et que le A, que je dessinais enfant, comme tous les petits enfants, venait du grec, de l'alpha, l'alpha grec, et que l'alpha venait de l'aleph sémitique. Sémitique, je dis, pourquoi je dis sémitique? Parce que cet alphabet, ce n'est pas les phéniciens qui l'ont inventé, comme le prétendent certaines personnes. Non, ce n'est pas les phéniciens qui ont inventé l'alphabet, mais l'alphabet était inventé par des sémites autour d'Israël, le Liban, la Syrie. C'est là où se sont fixées les formes de l'alphabet qui va être dérivé en alphabet grec, en alphabet latin, et qui va donner la plupart des alphabets du monde. Mais il se trouve que cet alphabet phénicien, paléo-hébraïque, hein, c'est la même chose, nabaté, et aussi l'alphabet moabite qu'on peut trouver à la stèle de Mécha, qui se trouve au musée du Louvre, a lui-même une origine sinaïtique. C'est-à-dire qu'on a retrouvé les plus anciennes traces d'un alphabet au sud du Sinaï, qu'on appelle le proto-sinaïtique, dont les formes sont très fortement inspirées des hiéroglyphes égyptiens. Donc on pourrait dire que dans la chronologie, il y a d'abord l'arsenal des hiéroglyphes égyptiens qui vont être empruntés par les inventeurs de l'alphabet vers moins 1800 avant l'ère chrétienne. Et donc une collaboration entre des peuples nomades du désert et des savants égyptiens pour créer le tout premier alphabet, le proto-sinaïtique, et ensuite, à l'an 1000, la création de l'alphabet paléo-hébreu ou phénicien, qui va donner par la suite tous les autres alphabets. Vous voyez déjà, en soi, l'archéologie est passionnante parce qu'on s'aperçoit que nous avons tous un patrimoine commun qui est l'alphabet. Nous nous en faisons la guerre depuis des millénaires, mais nous partageons cet ADN alphabétique et que cet alphabet-là pourrait nous réunir. Alors après, bien sûr, donc il y a l'origine archéologique qui est incontestable. Il suffit d'aller vérifier, d'aller au musée d'Israël. On a des exemplaires de cette histoire de l'écriture, de sa naissance jusqu'à nos jours. Mais ensuite, il y a une autre réalité qui est la plus poétique, qui est la réalité symbolique et mystique. Donc pour les kabbalistes, les lettres sont à l'origine du monde. La divinité va utiliser ces 22 lettres pour créer tout le monde. Donc là, c'est une jolie poétique, mais c'est aussi une préscience. C'est comme si ces kabbalistes avaient compris que tout l'univers qui nous entourait, tout le monde, que ce soit ces pierres, ces plantes, ces animaux, avaient tous une origine commune et qu'ils étaient la déclinaison de quelques éléments simples qui vont donner la diversité de tout ce que nous voyons dans le monde. Comme une préscience des particules élémentaires, ou alors une préscience des quatre briques de l'ADN, qui se combinent tel un alphabet pour créer tout ce qui vit.
Alors, cette succession de 22 lettres, depuis le Aleph, valeur numérique 1, jusqu'au Tav, valeur numérique 400, alors le Aleph contiendrait en lui, en essence, toutes les autres lettres à venir, et le Tav, la dernière, serait comme un point final. Chaque lettre serait un concept mystique, numérique, philosophique, et ces 22 lettres se succèdent suivant un ordre cohérent, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, etc., chaque lettre précédant et préparant la suivante, comme un escalier composé de 22 marches et dans lequel chacune des marches serait une lettre qui rendrait compte chacune des diverses étapes qui ont présidé à la création du monde. Alors c'est très séduisant comme concept, très vertigineux, mais on aime le retrouver, on s'amuse lorsqu'on connaît un peu l'hébreu à faire la version mathématique numérique de son propre nom en additionnant les différentes lettres qui forment le nom, et on arrive à un chiffre et on interprète le chiffre, et ça s'appelle la gématria. Alors dites-nous les éléments quelles sont les lettres qui vous semblent les plus significatives, les plus imposantes dans cette succession des 22 lettres hébraïques.
En effet, l'alphabet hébraïque n'est pas une suite aléatoire, contrairement à ce qui a été le résultat de l'alphabet latin. L'alphabet hébraïque est un chemin initiatique. C'est-à-dire qu'il y a un parcours, vous dites un escalier, madrigote, mais c'est un parcours initiatique, un peu comme le jeu de loi où on a une série d'épreuves. Et l'alphabet hébraïque peut être envisagé comme ça, on passe du Aleph au Bayt, du Bet au Gimel. C'est ce que j'ai développé dans mon livre « Les 22 clés de l'alphabet hébraïque » qui était publié chez DDB, où on a une cohérence. Alors le Aleph, évidemment, c'est l'unité, c'est le 1. Et étant l'unité, il est présent partout. C'est pour ça qu'on dit que c'est la lettre du silence. C'est un silence très parlant, c'est-à-dire comme il est présent dans tout, on ne peut pas l'éviter, on ne peut pas passer à côté de cette unité-là. Et donc si je fais 1 plus 1, ben, ça va donner le Bet. 2 plus 1, ça va donner le Gimel. Et ainsi, cet Aleph est terrible parce qu'il est présent en tout. Mais c'est aussi le taureau. Le taureau. Pourquoi les inventeurs de l'alphabet ont-ils mis l'Aleph en premier? Et parce que, à l'époque, je vous rappelle que ce ne sont pas des juifs qui ont inventé l'alphabet. Hein. C'était quelque temps avant l'apparition du peuple hébreu, à proprement dit. Mais ils ont choisi ce taureau, parce que le mot Aleph, dans les anciennes langues sémitiques, signifie le taureau, comme à Sumer, le dieu Alpu, A-L-P, A-L-F, c'est la même chose. Pourquoi ? Parce que le taureau était une divinité extrêmement importante au Moyen-Orient, dans le bassin méditerranéen. Si vous prenez le dieu Apis des Égyptiens, le dieu Alpu, le Minotaure, cette figure est énorme. C'est pour ça qu'ils ont placé en tout premier cette lettre qui est implacable, comme le taureau l'était, mais qui est aussi le symbole de fertilité, un symbole de travail, mais aussi pour ces peuplades, il était source de protéines parce qu'on le mangeait, mais c'est lui qui était propice à l'agriculture parce que c'est lui qui tirait la houe des agriculteurs et c'est lui qui se reproduisait pour créer de nouveaux cheptels. Et l'importance symbolique déjà, elle est là. Et après, bien sûr, pour la découverte par Abraham du monothéisme, dire un seul Dieu, il est évident que cette valeur numérique du 1 est extrêmement importante. Et juste après se trouve le Beit. Beit en hébreu, c'est la maison, vous le savez, et c'est un mot qui est employé très très souvent. C'est comme si on passait de quelque chose d'implacable, qui est l'unité, qui est ce taureau, à quelque chose de l'intimité, la maison. Et la forme même du Beit, dans la tradition, représente un utérus. C'est-à-dire que l'intérieur de la lettre est une sorte de membrane placentaire qui va voir naître et va porter le projet humain. Et ça, c'est très beau, cette référence au corps humain avec les lettres. On est dans une abstraction, dans une métaphysique, mais aussi dans une humanité poussée à sa plus grande chaleur. Donc le Beit, c'est la maison. Et puis, juste après, il y a le Gimel. C'est comme si l'intimité de la maison, qui a eu son temps, qui était nécessaire, c'est le temps de l'éducation, le temps de l'amour, les temps de l'unification avec le clan, mais juste après, comme pour nous libérer de ce trop bon, vient le Gimel. Et qu'est-ce que le Gimel ? C'est le chameau. C'est-à-dire que c'est le chameau qui va permettre de nous libérer de l'influence de la maison. C'est l'animal que prend Abraham quand il est invité à aller le rat, à aller vers lui-même, c'est-à-dire quand il doit quitter son pays, le pays de son père, le pays de ses enfantements. Donc le Guimel nous invite à quitter le Beit familial pour pouvoir nous autonomiser. Et Guimel, c'est aussi la richesse en hébreu, la richesse intérieure. Et si vous fouillez un petit peu plus la signification du mot Guimel, G-M-L, c'est le mot sevré. C'est-à-dire je me sèvre de cette dépendance que j'avais avec le Beit pour pouvoir aller vers moi-même, traverser le désert, c'est ce que fait le Guimel, pour arriver à la porte d'Alet. Ainsi de suite.
Oui, alors donc, rappelez que le Aleph a la forme, on le dessine comme un taureau un peu avec ses deux cornes, avec voilà, le bête, c'est une espèce de récipient, c'est d'ailleurs moi qui suis phonéticienne, je peux vous dire que Aleph, Bet, Gimel, c'est A, B, C, D, il y a les fricatives, les sons fricatifs, les sons plosifs, etc. On retrouve la généalogie de la phonétique traditionnelle, occidentale. Ces lettres, il y en a qui sont plus importantes que d'autres, qui sont par exemple les lettres mères. Aleph, oui, Shin, Mem.
Bien sûr. Aleph, Mem, Shin. Alors là, on est dans la Kabbale. Hein. Oui, écoutez, là, vous abordez la mystique de la Kabbale qui nourrit mon art, bien sûr. Parce qu'on ne peut pas être calligraphe sans être érudit. On est obligé d'étudier en permanence et de lire beaucoup, de suivre des cours, d'en donner soi-même, parce qu'on apprend beaucoup en apprenant aux autres. Et c'est le sens du mot Aleph, Alouf, c'est-à-dire qu'on retrouve dans le mot Ulpan, qui veut dire enseigner. C'est comme si la chose la plus importante de l'alphabet, Aleph, c'était enseigner. Et les gens passent à côté de cette racine de Alouf, qui veut dire vraiment enseigner. Et si je prends la moitié de l'alphabet, je prends la plus grande lettre de l'alphabet, qui est le lamed. La plus haute, c'est étudier. C'est-à-dire qu'on a, quand on fait le cercle des lettres, qui est un tserouf, on a diamétralement opposé le aleph, le lamed. Et donc ça veut dire qu'il y a une complémentarité entre l'enseignement et l'étude, qui est lamed. Anilomède, j'étudie. Et donc ça veut dire que quand je prends ces deux lettres, qui sont fondamentales, et puisqu'elles traversent, elles partagent le cercle des lettres en deux, ça forme le mot « El », qui est la désinence de Dieu en hébreu. Le mot qu'on retrouve dans Raphaël, Israël, Nathanaël, Elohim, Aleph, Lamed. Et ce qui est beau dans la pensée juive, justement, c'est que cette désinence, elle, Dieu, ça veut dire vers en hébreu. C'est-à-dire que ce n'est pas un Dieu de la fixité, ce n'est pas un Dieu qui est de l'ontos parmi bien, c'est un Dieu à la manière d'Héraclite, c'est-à-dire un Dieu du mouvement, de la direction. Et je pense que simplement avec ces étymologies, on a l'essence même de la pensée hébraïque et du judaïsme. On a une divinité qui est un ver quelque chose, et comme l'air le rat, avec le lamed qui est la contraction de el, va vers quelque chose. Et Dieu disant à l'homme, va vers toi-même, se dit la même chose à lui-même. Parce que c'est de ce dialogue entre l'homme et Dieu et l'homme, que l'un et l'autre pourront se connaître et perfectionner leur connaissance. De même qu'on a un Dieu qui commence aussi par Aleph avec le « ayez », le « je serai ». Ça veut dire qu'on a quelque chose qui est comme nous, qui ne peut savoir qui il est qu'en étant, et qu'en avançant, qu'en marchant, en yolère. Et donc ainsi, dans les étymologies, on a l'essence même de la pensée juive.
Alors, ce ayez, ça peut aussi ayez, c'est-à-dire je serai, que dit le Dieu juif.
Oui.
Je serai, c'est-à-dire qu'il y a une maîtrise sur le temps. Je le suis maintenant, mais je le serai de toute l'idée du temps universel. Ce n'est pas une présence temporelle, c'est le Dieu éternel.
Mais non, les lettres, effectivement, ce sont des symboles. Je prends Chet, par exemple, que vous citez, c'est une question. Chet, l'étymologie sémitique ancienne, ça veut dire la barrière, la cloison. Qu'est-ce que je fais quand j'arrive à la lettre Chet pour l'interpréter? Donc il y a quelque chose qui m'empêche d'avancer, quelque chose qui me bloque. C'est cette lettre, c'est une barrière. Et effectivement, je dois me poser la question, si je veux continuer le chemin alphabétique, c'est-à-dire aller d'une connaissance vers une autre connaissance, progresser dans ma propre vie spirituelle, je dois me poser la question du Chet. Qu'est-ce que c'est qui m'empêche d'avancer? Alors là, je vais vers une introspection et je vais me poser la question. Et cette question, c'est peut-être sans mes névroses, c'est-à-dire ce qui a un même stimuli me propose toujours de faire la même chose, qui me font répéter toute une vie les mêmes erreurs. Et donc, comment démêler la répétitose qu'entraîne cette lettre Chet? Comment démêler cela? Et je dois m'appuyer sur la lettre qui précède.
Mm-hmm.
Alors, donc, le Chet, donc on a le Vav Zayin, Chet, on a la lettre Zayin, qui est la lettre de la séparation.
Une épée, comme une épée.
C'est l'épée. Donc je dois apprendre à me séparer. Me séparer des choses qui m'alourdissent, de mes névroses, de mon attachement à mon clan, à la pression sociale. Je dois me séparer des choses auxquelles je suis attaché tout en sachant qu'elles me freinent. Et donc je dois apprendre à me séparer. Alors dès lors que j'ai cette connaissance et ce projet-là, la barrière sera facilement franchissable parce que j'aurai déjà préparé ce chemin qui va me permettre de sauter. Sauter la barrière, ça veut dire quoi? Il va falloir que je m'allège, tout simplement. Si j'ai un gros sac à dos avec tout mon passé, avec tout le reliquat des passés de mes parents, avec tout le reliquat d'une éducation parfois qui m'alourdit, mais non, je dois enlever des choses pour pouvoir m'alléger et sauter allègrement la barrière, voyez.
Mm-hmm.
Et on a comme ça, ce sont des questions, jamais des réponses. Si c'était des réponses, on ne serait pas dans la pensée hébraïque.
Oui, bien sûr.
On serait dans une idolatrie de la lettre.
Mm-hmm.
Parce que je réfute à vous savez, il y a pas mal de personnes qui utilisent les lettres. Je le vois parce que c'est mon milieu. Et je vois qu'ils ont créé une sorte d'idolâtrie. Et souvent, ce sont des personnes qui n'ont pas d'origine juive. C'est-à-dire qu'ils vont transposer une idolâtrie à là où ils ne devraient jamais y en avoir. Il n'y a pas de réponse. Il y a des questions comme en psychanalyse. Un psychanalyste qui vous dit « faites ci ou faites ça », c'est plus un psychanalyste, c'est un gourou. Il doit vous ramener à vous-même et vous amener à vous poser les bonnes questions au bon moment. Et donc, on a ainsi, c'est vrai que chaque lettre, si je parle du tête,
oui,
c'est le bouclier, c'est les protections, et je dois me poser, quelles sont toutes ces protections que je mets autour de moi et qui m'empêchent d'avancer encore? Parce qu'une assurance, une armure, une deuxième assurance, les précautions, c'est qu'on ne prend plus la vie en prenant le taureau par les cornes, on la subit tellement la peur nous saisit. Donc ainsi, comme ça, on a, et le yod, bien sûr, c'est la question de qu'est-ce que je suis prêt à donner. Et vous voyez, tout ça aussi, toutes ces questions avec mon épouse, Tina Bozzi, qui a créé une danse des lettres hébraïques, elle met ces questions en mouvement. Et c'est ça qui est merveilleux de notre collaboration, c'est qu'elle met en mouvement les questions et la philosophie qui est derrière chacune des lettres.
Franck Laloux, je vous remercie de nous avoir parlé de ces lettres. Maintenant, parlez-nous de votre façon de faire ces lettres, une façon virtuose qui maîtrise la lettre, qui la lettre s'épanouit de façon légère, mais avec maestria sur le support. Alors déjà, sur quel support écrivez-vous le parchemin? Quelle encre utilisez-vous? Le calame, c'est quoi votre calame? Ce n'est pas une plume d'oie, c'est autre chose. Et puis il y a la gestuelle, votre gestuelle magnifique qui ressemble un petit peu à une gestuelle de calligraphie utilisée pour la calligraphie chinoise.
Écoutez, le support, bon, quand je fais des œuvres pour les galeries ou les musées, c'est toujours des papiers très très nobles, magnifiques, des papiers Fabriano qui sont très chers, mais qui sont très pérennes. Donc je ne regarde pas l'art parce que je sais que c'est des œuvres qui doivent rester, qui seront vendues. Mais sans ça, tous les supports sont bons. Moi, je calligraphie sur des papiers légers, je calligraphie sur des murs, sur du sable, sur des cordes. J'ai beaucoup calligraphié sur les cordes d'une danseuse, sur le corps humain. Et tous les supports sont bons du moment qu'on ait le souffle. Ensuite, c'est vrai que quand on me voit faire, il y a ce mystère du trait. Et parce que, effectivement, pour arriver à cette maîtrise, il y a eu beaucoup de facteurs. D'abord, mes études de musique et de piano. Donc, depuis jeune, j'ai étudié le piano, la musique. Ça donne une discipline gestuelle. Et on n'a pas peur de répéter 100 fois, 1000 fois le même geste jusqu'à ce que le corps l'ait compris. Donc la musique. Ensuite, il y a les arts martiaux japonais que j'ai pratiqués, le tir à l'arc, le sabre, et aussi la cérémonie du thé japonaise qui m'ont appris à être là, à être présent et à savoir décocher une flèche au bon moment et à être concentré à l'extrême. C'est quand même ça. C'est pour ça que la calligraphie hébraïque peut devenir un exercice spirituel, elle peut devenir une méditation, un exercice de concentration extrême, parce que la lettre, elle existe avant moi, et je me concentre, je fais le vide total en moi, pour que toutes les pensées parasites du quotidien, les soucis quotidiens, disparaissent dès lors que j'ai cette grosse plume dans les mains, et que la lettre va venir. Donc je suis comme un oiseleur qui saisit l'oiseau au vol et celui qui le regarde et ensuite qui le relâche dans la nature. Donc il y a ce mystère du souffle. On ne peut pas calligraphier si le souffle n'est pas harmonisé avec chacun des traits. C'est quand j'expire, quand le souffle sort de mes poumons, que le trait apparaît. Et peu à peu, il y a une jubilation, une joie profonde, et qui va faire quoi? Elle va susciter l'invitation à la Shekhina de se présenter dans l'atelier, sur le papier. On a vraiment le mystère de la présence qui est là par la calligraphie. C'est pour ça que c'est un art majeur chez les Juifs. C'est les lettres, le trait, chacun des traits qui est vécu, insufflé avec de la kavana, de l'intention, qui va permettre d'inviter la lettre et d'inviter la présence sur le papier.
Alors le calame, quel est votre outil pour tracer ces lettres?
Ah ben, j'en ai de nombreux, bien sûr. J'ai des plumes classiques qu'on trouve dans le commerce, des parallèles pennes, des choses comme ça, pour écrire des petites plumes, des petites lettres. Mais j'utilise aussi le lalougraphe, je m'amuse à l'appeler comme ça. C'est un instrument que j'ai inventé il y a près de 20 ans, qui consiste à des spatules tout à fait banal de peintre, qu'on retrouve chez Leroy Merlin, mais que je garnis de feutres, de feutrines, qui me permet de garder l'encre et de pouvoir faire des lettres moyennes, petites, grandes, énormes. J'ai des plumes qui peuvent faire 20 cm de large et faire des plumes qui fassent pratiquement 1 mètre carré. Et là, il faut être extrêmement concentré, parce que la moindre erreur sera multipliée par 1000. Parce que de passer d'une plume de 2 mm à une plume de 20 cm, c'est-à-dire 200 fois plus grande. Et comme on est dans la superficie, ben vous voyez, 200 fois 200, ça fait 20 000 fois le geste. C'est-à-dire que c'est des énormes plumes. Et aussi dans les spectacles que je donne, peut-être un jour j'en donnerai à Strasbourg. Il y a deux ans, j'avais participé à un colloque à Strasbourg où je sonorise mes plumes. Je mets des micros dans mes plumes et avec mon épouse, la danseuse Tina Bozzi, et un violoncelliste, on donne un spectacle qui s'appelle le conte alphabétique où on voit les calligraphies se faire grâce à la caméra et la vidéoprojection. On les entend grâce au micro et aussi on les fait vivre avec la musique et la danseuse qui danse devant les lettres. Donc on a toute une magie de la lettre qui apparaît.
Monsieur Franck Laloux, alors vous êtes calligraphe, écrivain, essayiste, archéologue, vous avez une science d'érudition par rapport à ce tracé. Vous avez donc publié au moins une quarantaine de livres. Il y a aussi le livre unique, celui que vous faites vous-même, qui n'est pas édité et que vous vendez, et c'est collectionné dans les musées du monde entier. Voilà, ça c'est extraordinaire. Alors si quelqu'un, une personne qui écoute cette interview que nous avons faite et qui est vraiment magnétisée par cet univers, quel est le livre que vous avez fait qui pourrait l'initier au tracé de ces lettres? Il y a les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques titres que nous puissions acheter et de façon à avoir vos techniques de façon plus abordable?
Alors, bon, pour la symbolique, il y a deux livres qui s'appellent les 22 clés de l'alphabet hébraïque, chez Desclée de Brouwer. Ensuite, il y a les lettres sacrées de l'alphabet hébreu chez Pré Daniel. Ça, c'est la symbolique, l'archéologie de la lettre. Et ensuite, vous avez l'art de calligraphier l'hébreu chez Pré Daniel aussi. Et là, c'est une méthode de calligraphie hébraïque où j'explique avec un stylo, trait par trait, comment tracer les lettres. Et après, si les gens de Strasbourg veulent me faire venir, eh bien, on peut faire des séminaires sur les lettres où on mélange calligraphie et symbolique des lettres.
Mais écoutez, ça n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Je suis vraiment ravie. Je vous ai découvert par hasard. Moi-même, faisant un travail, à un moment donné, je me suis dit, je vais me rincer l'œil en regardant sur le net ce qui peut se faire autour de ces lettres juives. Et je suis tombée sur une émission de télé podcastée où vous êtes apparue dans toute votre majesté, parlant de ces lettres de façon surdouée. Et je me suis dit, je vais l'inviter. Et voilà, peut-être que va s'en suivre une invitation physique à vous faire venir à Strasbourg pour nous présenter votre art. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Franck Laloux.
Merci à vous d'avoir pensé à moi.
C'est un plaisir.
Merci, au revoir.
Au revoir, monsieur.
Strasbourg pilote. Arts et lettres. Le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. We'll be right back.